Le faiseur de monde présente le nouveau cycle de Yom.
Une dernière chose, comme aurait pu le dire Steve Jobs ou le lieutenant Colombo. Ou plutôt trois dernières choses. Un oubli, une précision et un secret dévoilé. Un oubli. Certains noms dans le nouveau cycle de Yom ont un sens. Ainsi, j'ai sans doute oublié de vous parler de Sin Arbouz, qui, en arabe, peut plus ou moins se rapprocher d'une signification telle que « j'aime le mauvais » ou « la tendance au péché », ce qui correspond bien au personnage. Mais je voudrais surtout revenir sur le terme de Yom, le cycle de Yom. Yom, en hébreu, c'est le jour. Par son nom, Ernest Arendish, on peut imaginer une relation au judaïsme, et donc potentiellement à l'hébreu, le cycle de Yom, le cycle du jour, qui commence effectivement par l'aube, kafté, et qui se termine par l'apocalypse, avec le crépuscule entre les deux. Je tenais néanmoins à vous raconter une histoire, totalement absurde, mais que je trouve fascinante. Certaines personnes, par ignorance ou par manipulation, rapprochent ce nom, Yom, d'un ensemble de récits de tradition orale des griots du Mali, que l'on appelle les palabres de Yom. Le côté absurde vient que certaines personnes vont chercher l'origine de ce nom, Yom, à cet endroit-là, alors que Ernest Arendish a écrit le livre bien avant. On revient dans la mythification, comme si c'était Oussem Ouedraogo qui avait écrit le cycle. Disons qu'il peut y avoir une coïncidence. Je vous en parle surtout car j'ai trouvé l'histoire intéressante. Cette tradition orale nous est parvenue parce qu'un sociologue nigérien a compilé les fameux palabres de Yom et a essayé d'apporter un certain nombre d'explications. Commençons par la base. Yom est un nomade. C'est un homme, mais dans les palabres, il représente aussi l'humanité, au sens global, mais du point de vue mâle. Ce qui est important puisque le grand principe des palabres de Yom, c'est de mettre face à face l'humanité sous la forme de ce mâle, Yom, et la nature, ce que les adeptes du grand équilibre appellent Gaïa, même si évidemment à l'époque au Mali on ne parlait pas de Gaïa, gardons ce terme de Gaïa, la nature, la terre, en tout cas un élément féminin. Le cœur de l'intrigue, si je puis m'exprimer ainsi, c'est que Yom, l'humanité, mâle, souhaite s'accoupler avec Gaïa, la terre ou la nature, femelle. Mais pour cela, il doit la convaincre. Un concept de consentement bien connu de nos jours que ce sociologue nigérien pourra rapprocher par exemple d'une parabole où Yom est un homme de basse caste de la tribu et où Gaïa peut être par exemple la fille d'un chef. D'autres y verront l'image biologique du spermatozoïde tout petit face à l'ovule. En tout cas, Yom doit convaincre ce que l'on va appeler Gaïa et va donc développer des arguments, prévoir les contre-arguments de Gaïa, bref, poser les bases d'une discussion dont l'objectif est que Gaïa accepte de s'accoupler avec Yom. Chaque palabre est construit autour d'un argument ou tout au moins d'un sujet sous-jacent cet argument, le sociologue nigérian en ayant repéré 58 et en ayant fait des agrégations de certains palabres dont le sujet se révèle à peu près le même si abordé de manière différente. Donc 58 discussions qui peuvent tourner à la discussion philosophique, au débat, dont l'objectif est effectivement de démontrer à Gaïa qu'elle a intérêt à s'accoupler avec Yom. La structure de ces récits, oraux, est bien sûr à chaque fois adaptée au contexte, j'y reviendrai, mais globalement repose toujours sur les mêmes trois phases. Une première partie du récit, où Yom, au sein de sa tribu nomade, est en route. Le récit s'attache donc de manière plus ou moins précise à la vie nomade et à ses difficultés. Trouver la subsistance pour les troupeaux, le risque des attaques, etc. La deuxième étape, le chef découvre un endroit propice où les nomades vont pouvoir temporairement se reposer, monter un campement et profiter d'un certain calme. Il y a par exemple de l'herbe pour les troupeaux et l'endroit peut être simplement protégé. Cela laisse le temps et peut-être l'état d'esprit à Yom de passer à la troisième étape, dont on peut imaginer qu'il l'a mûri pendant la première, aller voir Gaïa pour lui présenter ses arguments. Il n'y a jamais de description de la manière dont Yom va voir Gaïa, d'où l'interprétation de la fille du chef, qui est donc potentiellement juste à quelques mètres de Yom, ce qui fait qu'il n'y a pas de réel voyage pour la rejoindre. La troisième étape étant le palabre en tant que tel, Yom, face à Gaïa, présente ses arguments, discute, la chose tourne à la discussion philosophique, comme on pourrait débattre autour d'un thé, et se termine toujours de la même manière, si je reprends cette image d'une gentille discussion autour du thé, avec une seule trame de discussion autour de l'argument de ce récit. On arrive au bout de l'eau dans la théière et de ses arguments, ou tout au moins du sujet, et donc on se quitte, Gaïa ayant évidemment eu le dessus, c'est-à-dire ne s'étant pas laissé convaincre de s'accoupler avec Yom. On peut donc imaginer qu'il retourne à sa vie nomade, qu'à un moment le camp va être levé, et que pourra commencer un autre récit, un autre palabre. Comme je l'ai dit en introduction, nous avons récupéré une version écrite, mais bien sûr les griots pouvaient faire durer plus ou moins longtemps chacune des étapes, et surtout l'adapter, ce qui donnera une autre vision, une autre interprétation aux sociologues nigériens. Typiquement, si le récit se faisait à des agriculteurs, c'est-à-dire à des sédentaires, on prenait soin de ne pas décrire l'endroit où les nomades allaient s'installer comme étant quelque chose de proche, alors qu'au contraire, si jamais le récit se faisait à une tribu de nomades, on essayait de décrire un peu plus précisément les affres de leur voyage jusqu'à l'endroit où ils étaient, et on décrivait l'endroit où ils étaient comme étant celui du récit. D'où une des interprétations entre justement les nomades et les agriculteurs, sujet de friction et de problèmes politiques et même de guerre toujours aujourd'hui, Yom représentant les nomades, ce que l'on appelle nous aujourd'hui Gaïa représentant la terre, le fait que Yom puisse à un moment s'accoupler avec la terre signifiant que les nomades allaient pouvoir se sédentariser. Je n'explore pas plus avant ces récits, les palabres de Yom. Je souhaitais juste vous en parler car j'ai trouvé cette œuvre fascinante. Et je passe évidemment sur les adeptes du grand équilibre qui vont voir dans le cycle de Yom, et surtout la partie crépuscule et apocalypse, le viol de Gaïa par Yom. C'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de consentement, qu'il y a violence avec les conséquences que l'on sait. Ce qui va évidemment à l'encontre du récit des palabres, puisque dans la durée, en considérant que ces récits sont nombreux, on peut imaginer qu'à chaque refus, Yom retourne vers l'humanité, peut-être plus intelligent, plus riche, chacun de ces échanges l'ayant amené vers la sagesse. Deuxième chose, une précision. Dans le joyeux syncrétisme que j'ai mis en place, entre les inventions et les références à certaines cultures ou à certaines religions, je souhaite corriger une confusion possible. Il est fait souvent référence, au niveau de la vie de Houssem Ouédraogo, à la partie tamoule, et à du vocabulaire tamoule que l'on pourrait retrouver dans le cycle de Yom. J'ai aussi parlé de la Trimurti, cette notion de trois, qui vient de la culture hindoue et qui est la base, souvenez-vous, des fameux Vitihin. Vitihin Kan, Vitihin Kai, Vitihin Sakaran. Les trois piliers du destin. L'œil du destin, la main du destin, la roue du destin. Et donc, pour être clair et éviter toute confusion, les Tamouls ne sont pas hindouistes. Ce sont des chrétiens non réformés qui vénèrent Jésus et adorent la Vierge Marie. On a donc encore là un exemple de ce que le temps et les hommes ont pu faire de l'histoire du cycle de Yom, mélangeant allègrement tous les éléments qui peuvent les aider à construire leur discours. Pour finir, je souhaite justement revenir sur ce triangle du destin, le Vitihin. Et ce sera un secret dévoilé, et non pas révélé, car je ne vais lever qu'une partie du voile. Pour cela, j'ai besoin que vous jetiez un coup d'œil sur l'iconographie, certes un peu basique, qui représente ces trois éléments. Certains éléments de la trilogie du destin ne sont normalement accessibles qu'aux initiés, voire aux maîtres, raison pour laquelle je ne vais pas tout vous révéler, mais au moins avancer un petit peu avec vous dans la connaissance de ces éléments. Si vous regardez l'iconographie, la première chose que vous allez remarquer, et qui n'est donc un secret pour personne, puisqu'à partir du moment où on passe de l'oral au dessin, on le voit immédiatement, la roue du destin n'est pas une roue. Comme on peut le voir sur toutes les représentations, il s'agit bien d'une sorte de chaînette qui est tenue par la main. On peut imaginer qu'elle fait tourner la chaînette et que la persistance rétinienne permet de voir une roue. La roue du destin est donc créée par la rotation de la chaînette. Mais c'est bien la roue qui est importante et non la chaînette. J'y reviendrai. Si l'on reprend chaque élément, la deuxième chose que vous allez peut-être remarquer, l'œil du destin et non les yeux du destin. Il n'y a effectivement qu'un seul œil. Il ne s'agit évidemment pas d'une personne qui serait borgne, à qui on prêterait des pouvoirs car n'ayant qu'un œil, il verrait les choses différemment ou verrait ce que les autres ne peuvent voir. Il s'agit évidemment du troisième œil de Shiva, représentant sagesse et connaissance. Mais pas seulement, j'y reviendrai. De manière plus prosaïque, les apôtres du grand équilibre en ont fait aussi l'œil du témoin, celui qui voit les choses se passer, le Vitihinkan. Mais la vraie signification est bien le troisième œil, l'œil de Shiva. Et c'est là que nous passons au troisième élément, et que le secret commence à se dévoiler. Le troisième élément, la main du destin, dont vous allez pouvoir remarquer deux choses. Tout d'abord, l'iconographie ne représente qu'une seule main. Or il n'y a pas, comme pour l'œil de Shiva, le troisième œil, de symbole particulier d'une personne ou d'un dieu qui n'aurait qu'une seule main. La réflexion amène donc à se demander où est l'autre main. On peut imaginer que l'iconographie ne comporte pas la deuxième main, que l'autre main est donc là, comme dans l'ombre, juste à l'extérieur de l'image, et le secret, qui normalement n'est accessible qu'aux initiés, est celui-ci. Il s'agit de la main du destin. La main du destin n'est pas celle qui fait tourner la chaînette, elle n'apparaît pas sur l'iconographie. La main du destin est celle qui est dans l'ombre et qui, à un moment, viendra s'interposer dans la trajectoire de la chaînette pour l'arrêter de tourner et donc pour détruire la roue du destin. Pour les hindouistes, fin d'un cycle, la notion destructeur de l'œil de Shiva, qui est là pour détruire le monde à la fin de chaque cycle pour qu'un nouveau cycle puisse recommencer, quand l'autre main recommencera à faire tourner la chaînette, recréant ainsi la roue du destin. Voilà l'un des secrets de la trilogie du destin que l'on offre à la réflexion des initiés. Pour finir, une autre notion que vous allez peut-être voir dans mon iconographie, la main droite, la plupart des gens étant droitiers. Ce point est important, le côté droitier ou gaucher, car justement, il n'a pas d'importance, contrairement à l'autre secret, celui accessible uniquement au maître, quel est le sens de rotation de la chaînette pour constituer la roue. Ceci constitue le secret ultime accessible uniquement au maître. Après avoir parlé de Shiva, parlons de Brahma. Brahma étant justement le dieu qui opère et la construction et la destruction du monde. Et, à titre d'exemple, des fameuses croix gammées, dont le sens, soit à droite, soit à gauche, signifie construction ou destruction. Contrairement à ce que peut laisser croire le premier secret que je vous ai dévoilé, celui accessible uniquement aux initiés, avec la référence à l'œil de Shiva, à la destruction, et donc à la main qui vient interrompre la rotation de la chaînette, détruisant la roue et donc détruisant le monde, dans la conception secrète du triangle du destin, le cycle de construction et le cycle de destruction sont tous les deux dépendants de la roue du destin. Arrêter la roue du destin, ce n'est pas la fin du cycle, ce n'est pas la destruction du monde. C'est arrêter la roue du destin qui tournait, entre guillemets, dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la construction, pour que la main puisse faire tourner la chaînette dans l'autre sens, dans le sens de la destruction. La destruction du monde n'est donc pas instantanée, il y a des phases de construction et des phases de décadence, de dégénérescence, de destruction. Le secret ultime accessible au seul maître est de savoir dans quel sens tourne la roue en ce moment. Secret qui se transmet de maître en maître par l'iconographie liée à des détails sur la manière dont on dessine la chaînette et sur la représentation que l'on en fait dans sa rotation pour créer la roue du destin. N'allez pas chercher le moindre détail dans ma propre iconographie. Tout d'abord, je ne suis pas un maître, donc je ne suis pas en capacité de vous dire si nous sommes en phase de construction ou en phase de destruction. Par ailleurs, cette iconographie a été faite de manière neutre, comme la plupart de celles qui circulent, dessinées par des gens qui n'ont potentiellement même pas la connaissance de ces secrets et qui en font une simple représentation iconographique. Revenons simplement au nouveau cycle de Yom. Le Viti Incan, Lune et Méridies, étant censé être le témoin des événements, c'est-à-dire le témoin du moment où la main du destin vient arrêter la roue, et donc, forcément, quand l'autre main va imprimer un mouvement à la chaînette pour recréer la roue du destin, il verra dans quel sens tourne la chaînette. Le sens de la destruction, bien évidemment, au sens des apôtres du grand équilibre, et au sens des événements qui vont advenir.